enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Dieu, Dieu vivant, nous élevons ton nom, nous magnifions ton nom pour ce moment merveilleux que tu nous accordes de passer en ta présence. Merci Seigneur Dieu pour tous tes bienfaits. Merci. Ah Jésus, tu es bon Seigneur qui est comme toi. Éternel Dieu des cieux, viens nous disposer, Père éternel. Ce soir, être transformé dans une nouvelle dimension de champion, Seigneur. Éternel, viens nous faire entrer par ta grâce divine. Viens nous faire toucher des choses nouvelles avec toi. Éternel, nous bénissons ton nom parce que tu prends ceux qui sont dans la poussière et tu les fais asseoir à la table des rois. Éternel Dieu des cieux, béni sois-tu parce que nous savons, éternel Dieu, que demain encore glorieux, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Père éternel, nous savons que tu es là en ce lieu. Nous savons que tu es là dans ce moment. Nous savons que ta présence est manifestée. Et je prie, Seigneur Dieu, afin que nos cœurs soient collectés à toi. Ah, Esprit de Dieu, viens m'inonder, viens me remplir. Viens disposer le cœur de tes enfants. Viens prendre la place du roi. Viens t'installer majestueusement, glorieusement, puissamment, fortement, Seigneur. À toi la louange, la gloire, l'élévation, c'est des siècles. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Waouh. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir. Amen. J'aime vraiment le mardi des champions parce que je sais que je rencontre des champions, des championnes, des gens qui aiment la présence de Dieu. Amen. Et vraiment, nous sommes contents d'être en ce lieu. Et ma foi, l'espérance dans mon cœur, c'est que Dieu est en train vraiment de bâtir cette communauté avec par sa parole, des enseignements solides. Alléluia. Et demain, nous savons que nous allons moissonner ces choses-là parce que les familles, les couples seront stables. Alléluia. Et Dieu veut que par les choses que vous receviez, vous deveniez une bénédiction pour les autres couples. Je veux te dire aujourd'hui, ma sœur, je veux te dire, mon frère, même si tu es là pour la première fois où tu as suivi ce moment, sache qu'il y a de l'espoir pour ton foyer. Amen. Il y a de l'espoir pour ta maison. Il y a de l'espérance pour tes enfants. Et la Bible appelle ça justement la foi. Amen. C'est un thème qui est tellement important pour nous dans cette communauté. Vous le savez bien. Parce que tout simplement, Dieu lui-même, il porte une attention toute particulière. Nous avons vu que Jésus-Christ a destiné son premier miracle à une situation conjugale et que ce n'est pas fortuit. Alléluia. Il a fait ce miracle parce que justement la famille est importante pour lui. Et je vous ai donné ce témoin en ce qui me concerne. Je crois fermement que mon ministère pour le Seigneur a commencé réellement en résolvant mon problème de foyer. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Je n'étais pas encore marié en ce moment. Je prêchais la parole de Dieu, j'annonçais la parole de Dieu, mais j'avais une mauvaise compréhension du mariage, j'avais une mauvaise compréhension de la famille, du couple. Et mes premières années de fiançailles ont été désastreuses. J'ai dû me séparer donc de celle avec laquelle je me suis marié pendant près de 4 ans. Et pendant ces 4 ans, Dieu a passé le temps à changer mon cœur, à changer ma mentalité, à me faire comprendre les choses que je suis en train de partager avec vous maintenant. Alléluia. Alléluia. Et il faut les saisir parce que ton ministère, ta destinée est liée à ce couple-là, à ton foyer ou à ton futur mariage. Amen. Ceux qui ne sont pas encore mariés, soyez rassurés. Dieu est à l'œuvre. Amen. Mais seulement l'Éternel est en train de nous préparer, de nous disposer. Alléluia. Alléluia. On a commencé un enchaînement de célébration de mariage et ça va encore aller de gloire en gloire. Mais nous prions l'Éternel et notre prière constante et notre enseignement est fait en sorte que les couples soient vraiment fondés. Vous savez, ces choses que vous entendez, ce n'est pas le pasteur qui va vous marier. Amen. Je vais bénir, peut-être bénir votre mariage. Mais le mariage, ça sera votre choix. Ça sera votre choix. Mais pour pouvoir bien choisir, il faut avoir une certaine connaissance des choses de Dieu. Amen. Parce que si vous venez m'amener quelqu'un, Dieu peut me révéler que ce n'est pas la personne. Comme je peux ne rien voir. Un pasteur ne voit pas toujours tout. Alléluia. Donc, ne reposez pas votre couple sur les hommes de Dieu. C'est dit, bon, il paraît qu'on est un bon pasteur. Donc, je vais lui venir présenter cet homme-là. S'il dit que c'est lui, c'est que c'est lui. S'il dit que ce n'est pas lui, c'est que ce n'est pas lui. Erreur fatale. Alléluia. On peut te donner un conseil. On peut t'enseigner. On peut te parler. On va te donner la base de connaissances, mais la décision, vous savez, vient venir de toi. Alléluia, tu dois faire ton choix. Tu dois assumer ta responsabilité. Amen. Et vous savez, je vous ai dit ceci. Aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un cycle. Fin d'un cycle, c'est-à-dire tout l'enseignement sur le renouvellement du couple. Et je vais brièvement introduire la dimension de ce que nous allons dire bientôt. Amen. Et c'est toujours dans le cadre de la famille. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à savoir. Je vais donc introduire. On va aborder dans les mardis qui viennent, dans les mardis des champions, un autre thème lié aux cinq pierres de David. Alléluia. Et puis après, on va revenir sur un autre détail dans le couple. Amen. Amen. Alléluia. Je disais donc tantôt qu'il faut savoir que le choix vous revient. Rappelez-vous ceci. Pour parler de la restauration du couple. Le couple, l'enseignement du couple que nous avons donné a coïncidé au départ avec notre découverte de ce qu'on appelle du Jéhovah Rapha. Ça veut dire le Dieu qui restaure. Et un des premiers enseignements qu'on a reçus dans Jéhovah Rapha, c'était le bâton d'autorité. Vous vous souvenez? Qui se souvient? Ok. Ceux qui n'ont pas reçu, vraiment, prenez l'enseignement. Et dans le bâton d'autorité, nous avons parlé donc sur la base de l'image de Moïse qui, dans le désert avec le peuple, est tombé sur l'eau de Mara, l'eau amère. Amen. Et nous avons dit ceci, c'est que souvent vous avez soif. Soif d'un couple, soif d'un foyer, soif d'une situation stable, soif d'un besoin, soif de quelque chose professionnellement. Donc Israël avait soif. Israël s'est mis à marcher et dans leur soif, ils ont vu de l'eau. Ils ont eu donc de l'espoir. Ils ont vu que cette eau-là allait étancher leur soif. Ils se sont jetés, ils ont plongé dans ces eaux. Et lorsqu'ils ont bu cette eau, la Bible dit que ils ont vu que cette eau était amère. Alléluia. Et ça, mes amis, il faut vous attendre à cela. Dans votre vie, vous allez souvent boire des eaux amères. Dis avec moi, les eaux amères. Et j'avais défini ceci, c'est que les eaux amères, les eaux, c'est quelque chose dont on prend pour étancher sa soif, pour résoudre un problème. Et l'eau, c'est quelque chose dont on a besoin. Et généralement, lorsque les gens rentrent dans leur foyer, ou même les gens rentrent dans un boulot, dans un nouveau travail, en tout cas, dans tout ce qui nous donne de l'espérance à un moment donné, lorsque cette chose-là se transforme en quelque chose de désagréable, comme par exemple on t'emploie dans un endroit, tu vas travailler dans une entreprise et puis subitement on ne te paye plus, tu vois, c'est comme de l'eau amère. Alléluia. Tu pensais que ça allait étancher ta soif, mais lorsque tu as mis ça dans ta bouche, c'était transformé en eau amère. Les eaux amères parlent d'un espoir déçu, et ça on le rencontre souvent dans le foyer. Alors le peuple s'est mis à murmurer, ils sont fâchés contre Moïse. Nous sommes en Exode chapitre 15, à partir du verset 22. Le peuple est fâché contre Moïse. Et quand Moïse crie à Dieu, ce que Dieu fait, Dieu lui donne un bâton. Il dit, prends ce bâton et jette-le dans l'eau. Amen. Je vais revenir sur le bâton d'autorité dans les cinq pierres de David. Parce que si vous lisez le passage, lorsque David est parti terrasser Goliath, il a pris un bâton et puis il a pris cinq pierres. Alléluia. Et il a lancé une pierre sur Goliath et Goliath est tombé. On va parler de cela. Je vais revenir là-dessus, le bâton de commandement. Dieu donc demande à Moïse de prendre un bâton et de le jeter dans l'eau. Et nous avons dit que ce bâton-là représente donc le bâton d'autorité, le bâton de commandement. Il y a une des choses qui est importante dans le bâton de commandement, c'est la responsabilité. Il faut comprendre une chose, c'est que vous êtes responsable vis-à-vis de Dieu de votre vie. Amen. Vous êtes responsable de vos choix. Vous ne pouvez pas trouver des excuses dans l'état du pays, dans la situation de la nation, dans le caractère des hommes, jeter l'excuse sur les sorciers, sur les marabouts, laissez-les. Ils ne peuvent pas déterminer votre destinée. Ils peuvent s'opposer à vous comme une adversité, mais ils ne peuvent pas déterminer votre destinée. Sans quoi, Dieu ne vous jugera pas, il les jugera plus tôt. Mais tout le monde va passer en jugement pour sa propre vie, parce que tout le monde est responsable. Il ne faut pas trouver d'excuses. Et je vous ai dit comment Dieu restaure le bâton de commandement. Amen. Qu'est-ce que j'avais cité pour cela? J'avais dit, l'homme a perdu le bâton de commandement dans le jardin d'Éden. Quand Dieu est venu demander à Adam, comment que tu peux savoir que tu es nu? Adam lui répond, c'est la femme. C'est vrai que c'était Ève, mais Dieu n'apprécie pas cette attitude. Ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne sont pas responsables de ce qui nous arrive. N'est-ce pas? Les gens peuvent t'induire en erreur. Mais quand tu es tombé dans un trou, même si quelqu'un t'a conseillé d'y aller, tu es responsable. Amen. Alléluia. Vous savez, si vous ne prenez pas le bâton d'autorité dans votre vie, les gens vont déterminer votre futur. Il faut qu'à un moment donné, quand Adam a dit c'est Ève, il avait raison. Bon, quelque part, selon les hommes, on peut dire quelque part qu'il a raison. Bien vrai que, quand il a mangé le fruit, la Bible dit que quand le serpent est venu séduire Ève, lisez bien. La Bible dit que, Genèse chapitre 3, la Bible dit que Adam était à côté. Donc il a vu le scénario, il a vu le film, mais il n'a rien dit. Donc il est responsable, il est coupable lui aussi. Mais, il dit, mais effectivement, c'est pas lui qui a pris la décision. Ève a pris, et elle donne à l'homme, elle dit mange. Et l'homme dit, la femme que tu as mise auprès de moi. Donc, il accuse Dieu, il accuse la femme. Lorsque l'homme a agi ainsi, Dieu dit, bon, il va voir la femme pour voir, l'homme a perdu sa responsabilité. Un homme qui est responsable, quand quelque chose arrive dans ta maison, à ta femme, à tes enfants, même si ce n'est pas de ta faute, quand Dieu te met chef, tu es responsable. Alléluia. Saisir le bâton d'autorité vous amène à rectifier tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Dans l'instant où vous vous déchargez de votre responsabilité pour la mettre sur le dos de celui qui vous a accusé, ou bien qui a mis la pierre d'achoppement devant vous, celui qui a mis la pierre d'achoppement, il va payer pour ce qu'il a fait. Mais il faut profondément que vous sentiez que Dieu est avec vous et que vous êtes responsable de ce qui va vous arriver. Alléluia. Dis avec moi, je prends le bâton de commandement. Lorsqu'on a accusé Adam a mis sur Ève, on demande à Ève, elle a mis sur le serpent. C'est depuis ce jour que le diable a pris l'autorité sur la terre. Satan, on dit Satan, le serpent, pourquoi tu as induit l'homme en erreur? Lui n'a rien dit. Il a assumé. Il dit, c'est vrai même. Je suis mauvais. On dit, ok, tu es maudit. Il a assumé. Et du coup, il est devenu responsable des situations qui arrivent aux hommes. Il tient le bâton des commandements. Il détermine la vie. Vous savez, quand vous recevez la paix, vous dites, c'est à cause de mon patron que je ne voulais pas. Par votre parole, vous lui donnez autorité sur votre futur. Il peut vous bloquer. Il peut essayer de vous... Mais il ne peut pas vous arrêter. Parce que vous, vous appartenez à Dieu. Quand Jésus-Christ vient, c'est qu'il restaure. Dans Jéhovah Rapha, il te redonne le bâton d'autorité. C'est pourquoi, lorsqu'il a amené Israël dans le désert, la première des choses, il les a privés d'eau. Il dit, vous connaissez loi, mais là, vous avez envie d'accuser Moïse, vous avez envie d'accuser Dieu, vous avez envie d'accuser le désert. Pourquoi l'eau est amère? Moïse, comment il a fait pour avoir le bâton de commandement? Il n'a pas accusé quelqu'un. Il a crié à Dieu. Dieu lui a donné le secret. Il y a toujours une clé pour résoudre un problème donné. Alléluia. Alléluia. Et cette clé-là, pour l'avoir, il faut être responsable. Il faut assumer. Amen. Alléluia. Je ne peux pas venir dire demain, bon, c'est vrai, si l'église a des problèmes, on peut dire oui, c'est parce qu'un frère a fait ceci, un frère a fait cela, un frère a fait ceci. Mais tant que je suis le pasteur, tant que je mettrai la faute sur quelqu'un d'autre, je n'aurai pas suffisamment de révélation divine pour prendre les bonnes directives, les bonnes directions. Soyez responsable. Ne mettez pas votre truc, non, c'est un tel qui m'a fait ceci, c'est un tel qui m'a fait cela. S'ils ont pu te tromper, c'est parce que tu étais naïf. Donc ce que tu dois dire, j'ai été naïf, c'est tout. On dit, comment elle a fait pour te tromper? J'étais ignorant. Lorsque tu prends la responsabilité, que tu dis j'étais ignorant, c'est que tu vas commencer à vaincre ton ignorance. Mais si tu dis, c'est un escroc, c'est lui qui a fait que j'ai perdu mon argent, tu conserves ton ignorance. Et lui, il continue à être escroc. Est-ce que vous me suivez? L'escroc, celui qui est venu te tromper et soutirer ton argent, il va être jugé pour ce qu'il fait. Mais toi, comment est-ce qu'il a fait pour t'avoir? C'est ton ignorance. Et ce que Dieu veut que prendre le bâton d'autorité, c'est de dire ce que toi tu as fait et non ce que les autres ont fait pour t'amener à chuter. Quelqu'un me suit? Alléluia. Dans le foyer, c'est pareil. C'est pas ce qu'il a fait. C'est qu'est-ce qui m'est arrivé moi pour que cela m'arrive. Si le monsieur t'a menti, il t'a trompé, il t'a entraîné dans un faux foyer et qu'aujourd'hui tu n'es pas épanoui, c'est pas de dire il m'a blagué, il m'a dit qu'il était ceci, il m'a fait croire qu'il était gentil, qu'il m'aimait. Mais toi aussi tu as cru. Le bâton de responsabilité, c'est de dire Seigneur, j'ai été naïve. Je sais que l'homme a sa part de responsabilité qui est en train de prouver, la femme a sa part de responsabilité. Mais d'abord, j'assume. Dès l'instant où tu prends le bâton d'autorité dans ta main, tu es capable de changer toute circonstance dans ta maison, dans ton foyer, autour de toi. Parce que c'est la part de responsabilité. Tu découvres devant le Seigneur, tu découvres ta faiblesse, Dieu te guérit. C'est pourquoi il dit, avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, enlevez la poire de la poudre dans le vôtre. Ainsi, vous saurez comment. Tu veux savoir comment guérir ta maison, comment guérir ton foyer, comment restaurer, comment activer ton mariage. Toutes ces choses-là, tu veux savoir comment il faut le faire. Il faut d'abord prendre ton bâton d'autorité. Alléluia. Et quand tu le fais ainsi, quand tu commences, parce que quand tu reconnais ta part de responsabilité, amen, c'est ta façon à toi d'enlever la poudre qui est dans ton œil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poutre ou de paille dans l'œil de l'autre. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu as été aveuglé par quelque chose pour tomber dans ce trou. À un moment donné, ton discernement t'a manqué. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit. Quelqu'un me suit. Si vous comprenez le mystère du bâton d'autorité, vous êtes capable de régler toute chose. Parce que là commence la foi. Alors, si vous savez que vous n'êtes pas responsable, si vous savez que vous êtes responsable de votre destinée, vous pouvez croire qu'avec le Seigneur, les choses peuvent changer. Amen. Et vous allez faire tout ce qui est à votre niveau, devant l'Éternel, pour que cette chose-là soit résolue. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je viendrai encore là-dessus, sur cette spécificité en ce qui concerne le bâton, la verge d'autorité, le bâton de commandement, lorsqu'on va parler des cinq pierres de David. Dis avec moi, je suis responsable. Je suis responsable. En fait, je suis en train de te dire que tu vas déterminer, parce que Dieu, il a déjà décidé que toi, tu dois aller au sommet. Maintenant, si tu restes en bas, tu es responsable. Quand tu prends cette décision, quand tu ne mets plus ta responsabilité sur l'État, pour dire, voilà, ici, il n'y a pas de boulot, on sort de l'école, on ne nous embauche pas, l'État ne fait rien pour nous, les prix sont en train d'augmenter, laissez les gens parler. Ça, je n'ai pas dit que ce que les gens disent est faux. Ce qu'ils disent peut être vrai. Mais ceux qui passent leur temps à pleurer continueront à pleurer. Ceux qui regardent, qui disent oui, les prix ont augmenté, le carburant a augmenté. Mais si je subis cela, j'en suis responsable. Quand tu commences à raisonner comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Alors tu es disposé à recevoir le réma de Dieu. Pour que Dieu t'aide à surmonter, comment dire, là on est en train de parler des coûts, hein, l'augmentation des choses, de sorte que ta vie ne soit pas atteinte. Alléluia. Mais dès que tu vas dire c'est l'État, c'est mon patron, c'est ceci, c'est tous les sorciers du village. Les sorciers, il faut les lier, on va les paralyser, on va les massacrer, mais souvent laissez-les un peu. Et vous savez, c'est pourquoi les gens qui font des programmes, qui ne font que des ministères sur la délivrance, ont toujours. Voient toujours leur culte rempli. Les gens viennent parce que, en fait, les gens ne sont pas responsables. Mais c'est vrai. C'est-à-dire, ils ne veulent pas assumer. Règle l'histoire des sorciers. C'est quel sorcier, ça? Il y a des moments, il y a un frère, il m'a raconté tout le monde. Les démons l'ont fatigué jusqu'à. Un moment, il s'est levé et dit: bon, c'est bon. D'un moment, je ne suis plus possédé. Il y a quoi? Le démon est parti. Mais c'est-à-dire, restez là. C'est-à-dire, il s'est levé un matin et dit: je suis fatigué. Demain, je ne suis plus possédé. Et puis, il y a une soeur qui m'a rendu son témoignage. Elle était là d'un an en année, passée de délivrance en délivrance. Elle est venue ici, elle a commencé à écouter les enseignements. Elle s'est levée un matin et dit: c'est bon. Et toi, tu regardes les choses, tu dis: je suis fait, c'est bon maintenant. Il y a quoi? Il faut avancer. Tu n'as pas passé ta vie à rester là à chasser les démons? C'est quelle vie, ça? Jésus dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire, la puissance qu'il nous a donnée, c'est même pas pour faire des palabres. Dieu dit: tu les écrases et tu continues ta destinée. Alléluia. Arrêtez ça. Et malheureusement, c'était beaucoup profit de cela, de l'ignorance des gens. On va te maintenir. Et quand quelqu'un rentre dans un cycle de délivrance, regardez-le. Après 5 années de vie chrétienne, il est toujours en train de chasser les démons. Ça n'a pas de sens. Tu dois t'occuper de ta destinée, des choses que tu dois bâtir. Les démons existent, il faut les chasser. Mais passer sa vie avec les démons? Quand même. Non, il y a des fois, il faut se lever pour dire c'est bon. Là. Donc, il y a une soeur qui s'est levée, elle dit: démon, je ne veux même plus à la délivrance, je m'en fous de toi, c'est fini. Allez. Maintenant, si le démon voit qu'il ne peut plus rien te faire, il veut te posséder, tu ne veux pas.
Le démon veut te posséder, toi tu ne veux pas. Il ne va pas rentrer. Mais si tu fais pitié, et ce sont mes parents qui ont voulu que tu me possèdes. Mes parents m'ont envoûté. Mais comment ils vont t'envoûter? J'étais jeune chrétien, même à mon âge là. J'interdisais aux sorciers, mes parents sont musulmans, j'interdisais aux démons d'entrer dans notre maison. On arrive à une maison, j'avais 16 ans, 17 ans. Je venais à peine de me convertir. On arrive dans une famille, la maison était hantée. Mon père, on venait d'aménager, on l'avait affecté. La nuit, on dort, on sent les sorciers, les démons là partout. Je me suis réveillé en souriant. J'ai dit, vous êtes dans la maison? Moi, je suis arrivé. Je vous fais du mal. Régler leur situation. Je suis rentré au village. Je n'étais pas encore pasteur, je suis parti au village. Brûler tous les fétiches de mon grand-père. Je lui ai parlé de Jésus. Quand Jésus a commencé à faire les miracles au village, il a commencé à voir. Il a donné sa vie à Jésus. Parce que j'ai fait une annonce avec le Seigneur. Dans la famille, tout le monde doit se convertir avant de partir. Mes amis, ne laissez pas le diable décider à votre place. On est tous en Afrique, hein. On a tous des parents sorciers. Vous savez ça, non? Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire dans sa famille, il n'y en a pas. Donc si c'est pour dire, non, même, c'est parce que les gens qui te parlent en direct, vous descendez d'une génération familiale où il n'y a pas eu de sorciers. Nous tous là, la plupart d'entre nous, nos parents ne sont pas convertis. Et ils font des pratiques occultes. On peut passer le temps à pleurer. Sur le passé, dis Satan, j'ai fini quoi. Si tu comprends ce bâton-là que David a attrapé avant d'aller prendre les cinq pierres, alors les circonstances, la nation, les choses du pays n'arrivent pas à t'arrêter. Parce qu'à chaque moment, Dieu te montre une solution. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas d'adversité. Mais chaque fois, Dieu te montre une solution. Même quand tu es avec un homme ou une femme compliquée, il y a toujours une solution. Toujours. Parce que Dieu n'est pas limité. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de solution, ça comme ça veut dire que Dieu n'existe pas. Parce que la Bible dit que Dieu est le Dieu de l'impossible. Donc il faut bien qu'il y ait de l'impossibilité pour que Dieu soit là. Alléluia. Dieu aime les situations compliquées. Parce qu'il faut les situations compliquées pour glorifier son nom. S'il n'y a pas de situation compliquée, tu ne peux pas avoir la foi. Et Dieu même fait exprès pour compliquer certaines situations. Pour que tu puisses manifester ta foi. Quand il estime que ta situation n'est pas encore trop compliquée, il la complique davantage. Il dit, il faut que ta foi s'élève. Sois responsable. Prends ton bâton. Change les circonstances et les situations. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors donc une force pour restaurer votre couple, pour restaurer votre foyer, pour décider votre mariage et votre destinée vient de vous. Une bonne part vient de vous. Amen. On va ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 18. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit ceci, que si deux personnes sont en accord, tout ce qu'elles vont demander, elles vont l'obtenir. La Bible dit qu'il y a trois grandes choses dans le livre de 1 Corinthiens qui vont demeurer. Vous avez la foi, l'amour et l'espérance. Alléluia. On peut même résumer à deux, parce que sans espérance, il n'y a pas de foi. Parce que la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère. Donc l'espérance même produit la foi. Alléluia. Donc, maintenant Dieu dit donc ceci. Et la foi nous permet d'obtenir toute chose. La Bible dit que si tu demandes une chose à Dieu, que tu crois dans ton cœur que cette chose-là va arriver, alors tu la verras s'accomplir. La foi amène Dieu à agir. Amen. La foi développe ton autorité et amène Dieu à agir. Mais la Bible dit ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Quand tu auras la foi jusqu'à déplacer même les montagnes, si tu n'as pas l'amour, ce que tu fais n'est rien. Amen. Je veux simplement dire par ce passage que l'amour est encore plus grand que la foi. Et quand je veux parler d'amour, je veux parler de donc cet amour-là qui vous donne la capacité de vous unir et de vous accorder. C'est une arme encore beaucoup plus puissante que la foi. La Bible dit, il y a trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La Bible dit, tu peux avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes. Mais si tu n'as pas l'amour, ce que tu fais est vain. Amen. La foi peut déplacer des situations compliquées. Alléluia. La foi relève des challenges. La foi vous donne une façon de marcher. Mais il y a une autre force qui est plus grande. C'est la capacité de marcher en harmonie, en attente, en entente. Jésus dit dans ce passage que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Regardez dans ce passage. Le Seigneur ne dit pas que quelque chose sera accordé à cause de la foi. Ici, il n'y a pas le mot foi. Il dit l'accord est suffisant. Quand vous vous accordez, il dit si tu as la foi, tout ce que tu vas demander, tu vas obtenir. Il dit encore, si vous vous accordez, vous pouvez tout obtenir. Dans le livre de Genèse, le chapitre 11, il est question de la tour de Babel. Ces gens-là étaient en train de bâtir une tour sans le plan, sans la volonté de Dieu. Mais la Bible dit parce qu'ils étaient en accord, ils avaient une même langue, un même mot, ils étaient un seul peuple. Dieu a dit ceci, rien ne va empêcher ce peuple-là d'atteindre ce qu'il veut atteindre. La seule chose, c'est de mettre parmi eux un désaccord. Un désaccord. Les gens qui se sont divisés lors de la tour de Babel avaient une même vision. Ils voulaient bâtir une tour. Mais parce qu'ils parlaient des langages différents, ils n'ont pas pu obtenir, ils n'ont pas pu bâtir. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans ce passage? Quand vous regardez dans le grec, le mot qui est appliqué, qui a été traduit par s'accorder, il dit, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent, le mot qu'on a utilisé là, dans le grec, c'est le mot symphoneo. Symphoneo, bon. Et c'est le grec, revenons au français. C'est le mot qu'on a traduit généralement par symphonie. Symphonie. Amen. Donc, c'est écrit comme ça, vous voyez là. Symphoneo, symphonie, ça veut dire concert, ça veut dire accord, ça veut dire harmonie. Alléluia. En fait, je suis de vous. Là, je vais juste donner une introduction pour vous préparer dans la suite de l'enseignement qu'on va donner sur le couple. Comment vous préparer à vous accorder, être en accord avec votre futur conjoint si vous n'êtes pas encore marié? Et si vous êtes marié, comment vous accorder? Parce que dans votre couple, si vous arrivez à être d'accord, c'est comme si le film est fini. Dieu, Jésus-Christ est là. Je vous l'ai expliqué la dernière fois. Je vous ai dit, quand Dieu a créé, Dieu, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et Dieu lui a dit, parce que tu as l'image de Dieu, tu vas dominer. Donc, le pouvoir de domination vient du fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu dit ceci, en fait, Dieu, après avoir créé l'homme dans cette puissance à son image, donc l'homme est comme Dieu, l'homme est Dieu. Jésus a dit, n'a-t-on pas dit que vous êtes des dieux? Et l'homme qui est Dieu, le premier homme, Dieu va le diviser en deux. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 1, chapitre 2, comment Dieu a créé l'homme, la Bible dit que il a formé la poussière et il a soufflé un souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Le premier Adam, là, il était un corps, une âme, un esprit. Et c'est ce premier-là qui a, Dieu a dit, ça veut dire en lui, il y avait la perfection. Il était parfait. Le premier Adam, en lui, il y avait tout. C'est pourquoi quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas allé créer quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Parce que le premier, il est déjà, il y a tout en lui. Dieu prend l'homme parfait et il le divise, il le sépare en deux. C'est pas ça? La Bible dit, il fait dormir Adam et de Adam, il prend la côte, il fait sortir Ève. Dieu, on n'a pas dit quand Dieu a pris Ève, il est parti souffler encore en elle. C'est l'âme de Adam qui a été divisée en deux. L'esprit de Adam qui a été divisé en deux. Donc, l'homme qui est l'image de Dieu, en tant qu'homme, je vous ai déjà dit cela, il n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, Mohamed Sanogo, en tant qu'homme, je ne peux pas être à moi seul l'image parfaite de Dieu. Pour devenir comme Dieu, il faut que je retrouve ma côte pour fusionner ce qu'on avait séparé. Quelqu'un me suit?
Alléluia.
Donc, lorsque je rencontre ma femme, la Bible dit que, en fait, pour... Parce que quand vous allez ensemble, là, il faut, vous êtes en accord. Regardez votre corps. Un corps seul, il est en accord. En accord, ça veut dire tout est synchronisé, tout est harmonieux. C'est-à-dire, ta main fait ce que ton cerveau a dit de faire. Si ta main n'est pas en accord avec ton cerveau, ton corps est en désaccord. C'est-à-dire, toi, si tu as arrêté, ta main... Tu dis, calme-toi. Elle dit, je ne veux pas. Tu vois? C'est... Tu ne peux rien faire. Alléluia. Donc, l'accord, c'est que vous êtes d'accord. Quand tu te lèves, tu dis à ton pied, nous partons. Le pied est d'accord, il marche. Mais s'il est en désaccord, toi tu vas aller devant, lui va aller derrière. Ça ne va pas aller. Amen. Alléluia. Alors donc, mais quand Adam va aller vers Ève, voici la phrase qu'il dit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux vont devenir une seule chair. Souvent, on n'a pas bien compris ce que ça signifie, une seule chair. On a dit qu'ils vont devenir seulement une seule chair. Le mariage, ou bien les premiers rapports sexuels qu'un homme a avec sa femme, parce que la Bible dit, devenir une seule chair, là, c'est avoir des rapports intimes, en fait. Parce qu'il est écrit dans le livre des 1 Corinthiens que si un homme couche avec une prostituée, il devient aussi une seule chair avec elle. Donc, en fait, une seule chair, là, c'est juste les rapports intimes. Mais Dieu dit, l'homme va avec sa femme, donc, il dit, si l'homme prend sa femme, il va prendre sa femme. Ils vont devenir une seule chair. Or, avant, ils n'étaient pas seulement une seule chair. Ils étaient une seule chair, une seule âme, un seul esprit. Ça veut dire même quand tu te maries, quand tu es avec ton conjoint, vous êtes seulement une seule chair. Vous n'êtes pas encore une âme. Et vous n'êtes pas encore un esprit. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Si tu arrives à faire en sorte que ta femme et toi, ton futur conjoint, dans l'âme, vous devenez un, vous êtes d'accord. En esprit, vous êtes d'accord. En fait, vous devenez Dieu. Et quand tu es Dieu, il n'y a rien de ce que tu veux. Je n'ai pas dit on va les remplacer Dieu le Créateur. Hein. On se comprend. Il n'y a rien de ce que tu veux qui n'arrive. J'avais déjà parlé de ces choses ici. Alléluia. Le mystère du mariage et le puissant trésor qui est dans le mariage, c'est d'arriver à créer cet accord. Si vous arrivez à le faire, et vous devez le rechercher, parce que la divinité n'est pas gratuite. C'est tellement puissant que Dieu va vous éprouver avant de vous l'accorder. C'est pourquoi il commence à dire, devenez d'abord une seule chair, commencez le film. Mais l'homme doit savoir qu'il doit persévérer avec sa femme. La femme doit savoir qu'elle doit persévérer avec son homme. Et sur le chemin, le diable va faire tout pour vous mettre en désaccord. Vous pourrez avoir vos rapports, mais si votre âme et votre esprit, c'est-à-dire l'accord, là, quand tu as essayé avec ta femme, tu as assis quelque part et puis tu sais ce qu'elle pense, elle sait ce que tu penses. On va montrer un exemple d'accord. Alléluia. Amen. Meliou, tu chantes, quelle est ta gamme habituelle? Ré.
Est digne de régner.
Tu joues, hein? C'est bien, c'est beau, elle chante bien. Alléluia. Donc, Meliou, la soeur Meliou a chanté dans la gamme Ré. Regardez, je vous ai dit ce mot-là. La Bible dit, si deux personnes s'accordent, je dis que le mot accord, c'est le mot symphonie. C'est le mot symphonie, ou bien harmonie, ou bien accord de musique. C'est un peu comme si on dit, si deux personnes chantent en accord, si un homme et sa femme sont en accord. Alléluia. Mais lui a chanté en Ré, car il est glorieux. C'est une gamme. Bon, tout le monde connaît un peu la musique, non? Ça fait des années que vous êtes à l'église, on chante tous les jours, vous connaissez? C'est en quoi? En Fa.
Et digne de
Dominique chante bien, non? On peut acclamer le Seigneur. Lorsqu'une personne chante bien, on peut dire, Dominique, elle a raison. Elle est dans le droit, c'est bien ce qu'elle fait. Mais lui aussi chantait tout à l'heure en quoi?
Henri.
Elle aussi, elle chante bien. Maintenant, est-ce que tu peux garder ta gamme de Fa et toi tu gardes ta gamme de Ré et chanter ensemble?
Chante Ré.
Chantez. Mais lui chante avec conviction en Ré.
Et digne de
Maintenant, toi, prends une autre gamme aussi. Chante quelque chose là. Ce n'est pas facile pour des chanteurs, c'est pas facile de chanter dans des gammes différentes. Parce que quand tu entends l'autre, naturellement la voix veut aller. Mais débrouillez-vous, faites un effort. On doit prêcher ensemble, faites un effort. Mais lui, je sais que tu peux.
Car il est glorieux et digne de
Continue. Chantez plus fort. Allez-y encore. Bon, on a vu, ils n'ont qu'à arrêter, non? Parce que là, il est venu nous tuer maintenant. Ok, vous voyez? Voilà un groupe qui met ensemble, ils ont un même chant. Ils ont l'objectif de chanter le même chant. Mais tout est une affaire de gamme. Avec le même chant, on peut créer la cacophonie. Vous vous associez dans votre couple avec une même vision. Qui se marie pour être malheureux ou pour être triste? Mais si ton mari peut chanter dans une gamme, et quand il chante seul dans sa gamme, il a raison. Non, on ne peut pas lui faire de reproche. C'est-à-dire, quand il chante en do, il n'y a pas de reproche à lui faire. C'est correct. Toi, la femme, tu viens chanter à côté, en fa, le même chant. Tu dis, on a dit, on n'a qu'à chanter ensemble. Comprenez un peu le couple, non? On veut que notre foyer soit solide. On a dit que toi et moi, nous allons nous entendre. Mais si elle vient chanter le même chant, mais en fa, il y a un désordre dans la maison. Et les gens vont se battre parce que chacun va dire à son ami, tu chantes mal. Oh, personne ne chante mal. Ce que je vais vous expliquer, c'est que lorsqu'on parle d'accord, deux personnes peuvent avoir raison en même temps, mais ne pas s'entendre. Est-ce que vous me suivez? Madame est dans son droit. Monsieur est dans son droit. Mais quand les deux sont ensemble, ça fait faux. Parce qu'ils ne sont pas dans la même gamme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu veux régler le problème de ce couple-là, quand tu t'assois avec le mari, quand il t'explique, tu dis, mais la femme-là, elle est trop bizarre. C'est elle qui a tort. Maintenant, tu prends la femme. Non, tu es sûr que tu as venu lui expliquer le problème. Et quand tu parles avec elle, tu dis, mais le monsieur, c'est vraiment un faux type, ton gars-là. Et à la fin, à un moment donné, tu dis, mon frère, j'ai essayé de résoudre ce problème de foyer. Chacun a raison, je ne comprends rien. Je sens. Alléluia. Ça, c'est une problématique par rapport à ce qui concerne l'accord. Il y a encore d'autres choses qui concernent l'accord. Amen. Alléluia. Maintenant, dans la même gamme, vous allez voir que vous allez faire les différentes voix de prénom Fa. Ils vont pas chanter, écoutez-moi, ils vont chanter le même chant, dans la même gamme, mais ils vont prendre des voix différentes.
Car il est glorieux et digne de régner l'agneau.
Thank you.
Maintenant, ça c'est quelle voix? Ah, c'est soprano. Maintenant, arrête le soprano. Toi, tu prends quoi? Fais quelle voix? Fais alto.
Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain.
Tu peux faire une troisième voix? Il y a une troisième voix, non? Bon, fais ténor. En fait, les trois ne chantent pas exactement les mêmes voix. Ils chantent le même chant. Maintenant, chantez tous ensemble.
Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous
c'est beau, non, quand on chante en harmonie. On peut acclamer le Seigneur, c'est beau. Alléluia. Donc, on était dans quelle gamme? On était en Fa, c'est ça? Donc, on était tous dans la gamme Fa, mais chacun a pris une voix. Ça veut dire, dans le couple, la femme et l'homme n'ont pas les mêmes voix. Ils doivent être dans une même gamme, mais ils ont des voix différentes pour pouvoir créer l'accord. Ça veut dire, si ils chantent tous de la même voix, on va dire qu'ils vont chanter à l'unisson. Ça sera moins beau. Ça sera beau, mais chanter à l'unisson, on va voir.
Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain.
Amen. Amen. C'est beau. Mais c'est moins beau que l'harmonie. L'harmonie, c'est on est dans la même gamme, mais on prend des voix différentes. Alléluia. Alléluia. C'est ce que ce passage est en train de dire. Si deux personnes s'accordent, tout ce qu'elles demanderont, elles l'obtiendront. Parce que ce qui sort de leur couple, c'est une symphonie agréable à Dieu. Alléluia. Maintenant, comment s'accorder? Amen. Maintenant, il y a un autre problème aussi par rapport à l'accord. Il y a des gens qui dégament. Parce que eux tous sont des chanteurs. Chacun chante juste. J'ai besoin de quelqu'un qui ne sait pas chanter, qui chante faux. Qui, quand il commence à chanter, il commence quelque part, il finit quelque part. Vas-y, vas-y.
Car il est glorieux et digne de régner l'agneau.
Amen. Alléluia. Alléluia. Ok. Donc maintenant, ça c'est un problème par rapport à l'accord. Tel qu'il est en train de chanter, il chante faux. Et comme il chante faux, on ne peut même pas s'accorder avec lui. On ne peut pas s'accorder parce qu'il commence dans une gamme, il va dans une autre, il revient dans une autre gamme. C'est-à-dire que lui seul, il chante faux. Ah, comprenez? Quand quelqu'un chante faux, qu'est-ce qu'il paraît? En fait, tu ne sais jamais exactement ce qu'il veut. Dans un couple, lorsqu'une personne est elle-même en désaccord avec elle-même, presque immédiatement, il y aura désaccord dans le couple. Le problème de Dieu, avant de vous autoriser à vous marier, c'est de faire en sorte que vous-même, vous soyez en accord avec vous-même. C'est quoi le désaccord? Ta chair chante une gamme, ton âme chante autre chose et ton esprit est différent. Ça veut dire en toi-même, tu es plein de contradictions. il sera très difficile de trouver un homme qui te soit adapté ou une femme qui te soit adaptée. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'homme pour toi. Mais c'est en ce moment-là que je vous enseigne ce que Dieu a dit quand il a vu Adam, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais je vous ai dit que cette phrase vient de Dieu, parce qu'il y a des personnes. Il est bien qu'elle soit seule. Parce que, tel que c'est pichante, je sais que Herman, en tout cas, vous êtes, ils sont bien, mais là, ils ne peuvent pas. Alléluia. Quand tu attends, qu'est-ce que Dieu dit pour attendre, pour déclencher, pour ouvrir la porte du mariage dans ta vie? C'est que tu puisses déterminer dans ta vie, ne serait-ce que chanter au moins dans une gamme. C'est-à-dire que ton corps, ton âme, ton esprit, tu sois d'accord avec toi-même. Tu sois d'accord avec toi-même. Tu sentes plus ou moins ce que tu veux. Parce que quand on écoute quelqu'un qui chante, c'est comme si on ne sait pas ce qu'il veut chanter. On ne sait pas s'il veut chanter en do, s'il veut chanter en ré, s'il veut chanter en mi. On dit, mon frère, prends une seule voix. Il veut chanter un chant. Le chant est le bon. Mais en lui-même, il y a une contradiction. Première cause de désaccord et de troubles dans les foyers. Des gens, et la plupart, c'est une première cause de divorce. Les gens arrivent dans le foyer. En eux-mêmes, ils dégament à leur niveau. Leur destinée n'est pas claire. Ils ne savent pas où ils partent dans la vie. Ils prennent un chemin, ils s'arrêtent. Après, ils prennent un autre. Ils prennent un autre. Et dans leur détresse, ils cherchent quelqu'un pour venir les marier. Tu vas entraîner l'autre dans un trou. Quelqu'un me suit? Alléluia. Celui qui donne et qui accorde, c'est d'abord le Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Je dis, c'est notre prochain thème en ce qui concerne la famille, l'harmonie. Dieu va nous dire des choses fortes, puissantes. Parce que ma prière est que de chaque famille dans cette communauté se lève une symphonie d'adoration. Et que quand l'Éternel entend le chant de votre couple dans le ciel, vous êtes tellement en accord. Donc on a plusieurs causes. On a des causes, une personne même en elle-même est désaccordée, ou bien deux personnes qui savent chanter, mais chantent dans des gammes différentes. Alléluia. Et même quand deux personnes, si deux personnes te disent que ça chantait, chantent dans des gammes différentes, elles n'arrivent pas à s'accorder, on te dira qu'elles ne savent pas chanter. Amen. Une des causes aussi que je te jurais, qui met un couple dans le désaccord, qui met un couple à chanter faux, c'est par exemple le mensonge. Vous allez avoir, vous risquez d'avoir un couple en désaccord si dès le début, je mets les ennemis de l'accord, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 15, il a dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Jean, chapitre 44, Jésus a dit, vous avez coupé le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, il est le père du mensonge. Je dis cette parole, le sermon est terminé. Vous ne pouvez pas bâtir un couple en accord avec le mensonge. Il n'y a pas d'accord possible. Ça montre une personne aussi, c'est une maladie d'une personne qui est en désaccord avec elle-même. Beaucoup d'hommes et de femmes rentrent dans un foyer avec du faux. Ils mentent sur leur situation, mentent sur leur famille, mentent sur leur passé, mentent sur leur état. Quand vous voyez, vous avez un couple comme ça, vous êtes sûr qu'il y aura un clash. Même s'il a dit non, j'ai menti pour protéger ceci, pour protéger cela, vous ne pourrez pas chanter en harmonie. Parce que la Bible dit, qu'est-ce qu'il y a comme accord? Est-ce que le Christ peut s'accorder avec le diable? 2 Corinthiens 6, 15. Non, il ne peut pas s'accorder parce que le diable, il parle en mentant. Je veux dire simplement, il y a des couples qui attendent l'accord. Mais ton couple connaît des foyers aujourd'hui. Peut-être que ta femme n'a jamais su le vrai problème. Ou bien ton mari ne sait pas. Mais il faut que tu prennes le temps et que tu commences à prier. Amen. Pour en parler, pour te repentir, pour confesser. On peut repartir à zéro. Il faut régler ce problème-là. C'est juste un élément que je voulais citer en ce qui concerne le désaccord. Alléluia. Alléluia.
bâtir dans la vérité. Et je vous apprendrai aussi que la gamme principale dans un couple est donnée par le Seigneur. Vous savez, quand les choristes sont en train de chanter, il y a celui qu'on appelle le lead, ou bien les instruments, qui donnent la gamme principale. Quand ils chantent, les autres suivent. Amen. Et le Seigneur est celui qui donne la gamme principale. Et tout cela, nous les verrons. Et ce dernier point, avec lequel celui que l'on va prier, la Bible dit que pour bâtir donc un couple harmonieux, femme, soyez soumise à votre mari. On a entendu ce qu'on a, on a expliqué la dernière fois tout ce que ça signifiait. On a dit, fais une différence entre la soumission et l'obéissance, c'est deux choses différentes. On a parlé du mystère qu'il y a dans la soumission. Pour pouvoir arriver à s'accorder, il faut que l'homme et la femme quelque part renoncent. Ça veut dire, vous savez, chacun chantait dans une gamme. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure à sa gamme et qui accepte de prendre la gamme de l'autre pour qu'il y ait harmonie. Le couple ne peut pas être en harmonie s'il n'y a pas une personne qui meurt. C'est pourquoi lorsque Dieu a voulu créer Ève, et Dieu donne, lorsque Dieu a voulu faire Ève, il a d'abord tué Adam en le faisant endormir. Parce que sans la mort, il n'y a pas de vie. Tu peux être quelqu'un d'excellent, d'extraordinaire. Ton mari peut être excellent, ton futur mari peut être excellent. Bien. Mais il faut bien qu'il y ait une personne qui renonce à elle. Et si les deux le font, c'est tant mieux. Mais le premier qui va le faire pour s'accorder, il va permettre à son couple d'entrer dans l'harmonie. Et Dieu donne d'abord cette responsabilité-là à l'homme en disant ceci. L'homme est d'abord celui-là qui va quitter son père et sa mère et qui va s'attacher à sa femme. Il va quitter. Pendant ce temps de séminaire, on a tellement parlé aux femmes. Mais quitter son père et sa mère, ça parle aussi de la mort. Alléluia. Ça parle de savoir quitter le premier accord avec, dans lequel on a grandi, avec nos parents, pour aller vers sa femme, renoncer à soi-même. Alléluia. Alléluia. Si tu viens dans ton foyer pour toi-même, pour tes intérêts de manière égoïste, si tu n'es pas prêt à mourir, si tu n'es pas prêt à prendre le bâton d'autorité, tu ne peux pas bâtir un couple glorieux. Si quelqu'un veut se marier, il faut qu'il s'apprête à mourir. Amen. Est-ce qu'on veut se marier? Ceux qui ne sont pas mariés. Regarde ton fiancé, si regarde-le en esprit s'il n'est pas encore là. Et vois ce que tu seras prêt à mourir. Si tu viens dans ton foyer pour dire, il faut que tout le monde chante dans ma gamme, tout le monde chante dans ma gamme. Tu es disposé déjà à avoir un couple divisé. On va s'arrêter là. Alléluia. J'ai voulu rappeler ces deux choses. Parce que nos familles, nos foyers, nos couples, nos maisons doivent chanter et chanteront une symphonie, un accord. Alléluia. Je suis convaincu d'une chose, c'est que lorsque Dieu restaure la famille, Dieu restaure le foyer, la nation commence à changer. Les choses commencent à bouger. Quand une femme et son mari sont en accord, ce que vous décidez pour vos enfants, ça leur arrive. Ça leur arrive. Ce que vous souhaitez arrive. La réalité, c'est que souvent, les hommes ne sont pas en accord. Monsieur souhaite profondément quelque chose. La dame, dans son cœur, elle a un peu peur. Elle peut pas. Elle dit, oui, je souhaite. Mais en réalité, elle a peur. De peur que la promotion, peut-être tout le poste, l'amène à se détourner d'elle. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais Dieu a fait le couple pour que l'homme et la femme deviennent comme lui. Dieu a créé l'homme à son image. Il a mis Adam en deux. Il a dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, premièrement, il y a l'accord dans la chair qui fait que vous êtes d'accord pour aller ensemble, pour avoir des rapports. Mais, Dieu dit, ce n'est pas la seule chose. Il faut que vous soyez une seule âme, un seul esprit, que vous puissiez chanter en harmonie, afin que votre vision puisse se réaliser pleinement, afin de pouvoir pleinement entrer dans votre destinée et d'être comme Dieu. On va se tenir debout.
C'était le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de la mission évangélique Vase d'honneur. Merci de votre attention et à un autre message.